Des frites, des frites, des frites. Bonjour, je suis Céline Hussonneau-Alaïa. Les nouvelles aventures de la famille Tuche, c'est pour l'année prochaine. Mais le titre du film et l'affiche ont déjà été annoncés. God Save the Tuche. Jeff, Cathy, leurs enfants et Mamie Suze ont cette fois rendez-vous avec la famille royale britannique. Et comme toujours, avec le public. Car cette saga, parfois caricaturale mais toujours populaire, est déjà culte et a su toucher le cœur des Français. Un pour Tuche, Tuche pour un. Le cinquième volet de la saga Tuche a été annoncé et il sortira en salle l'année prochaine, en février 2025. Dans ce nouveau film, on suivra les aventures de la famille Tuche de l'autre côté de la Manche. On devine déjà le choc des cultures entre les Tuche et la famille royale britannique. À l'image d'ailleurs de l'affiche du film, des frites qui trempent dans une jolie tasse de thé en porcelaine et du titre « A God Save the Tuche ». Depuis le tout premier épisode, les Tuche ont réuni en salle 11 700 000 spectateurs. Une saga au succès exponentiel, à l'exception du quatrième film sorti pendant la crise Covid. Lors de la diffusion du tout premier à la télévision, près de 8 millions de téléspectateurs étaient devant leur écran. Une véritable success story sur laquelle personne ne misait. Quelle est la marque de fabrique des Tuche ? Une famille, d'abord, comme le rappelle Jean-Paul Rouve, l'un des acteurs du film sur France Inter en 2021. Et une famille française.
Ouais, je sais. Non, mais ils sont très unis en tout cas. Ils sont très unis, c'est ce qui fait leur force. C'est cette famille aussi. Je pense qu'aussi les gens aiment ça, c'est vrai, dans ce qu'ils aiment, il y a ça. Ils s'aiment beaucoup et ils savent que c'est ensemble qu'ils sont forts. Et ils ne l'oublient pas, ça.
La French Tuche, titre Le Parisien, en gros,
ouais,
ce matin. Vous avez vu ça?
Ouais, j'ai vu ça. Ouais.
Qu'est-ce qu'ils ont de français, de profondément français, vos Tuches?
Mais ils sont d'une mauvaise foi sans nom. Ils sont râleurs, ils sont roublards. Ouais, ils ont toutes ces qualités-là. Et, enfin, c'est des qualités, moi, je crois, tout ça. C'est un peu ce que disait... ce que je dis là, Goscinny pouvait le dire dans les années 60 en parlant d'Astérix et tout ça.
Des personnages hauts en couleur. Il y a Jeff, chômeur de père en fils, comme il se présente lui-même. Cathy, qui ne jure que par les frites. Leurs trois enfants, Stéphanie, la bimbo, Wilfried, qui se prend pour un rappeur et qui fera son coming out, et Donald, dit Coin-Coin, le petit génie de la famille. Et puis, il y a aussi la grand-mère, surnommée Mamie Suze, qui parle le Vachniak, une sorte de dialecte incompréhensible. Mamie Suze, d'ailleurs, toujours accompagnée de Toby, son chien empaillé. Voilà pour les présentations. Leurs aventures ? La vie de la famille Tuche bascule du jour au lendemain quand le père, Jeff, remporte 100 millions d'euros à la loterie. Il quitte Bouzol, une commune fictive du nord de la France, et déménage à Monaco.
Nous, c'est les Tuches. On a touché le grelot, Monaco aussi.
Pour le meilleur et pour le pire.
Je sens qu'on va être heureux ici. Oh la vache!
Écoutez, n'insistez pas, je viens de vous le dire, nous sommes en haute saison.
Oh putain de bordel.
La suite, Alain Delon.
Attendez, je connais pas Alain Delon, je vais pas le déranger.
J'ai quelque chose d'important à vous dire.
T'as gagné au loto?
Non.
Restez naturel, hein, faut pas montrer qu'on débarque.
Un club privé ici, pour entrer, il vous faut un parrain.
Ah ben, j'en ai bien un, hein, Jean-Yves. Puis là, ça tombe mal parce que là, ils viennent de se séparer avec Solange. Parce que il faut dire qu'à force de renifler les fesses des voisines, là, Solange essaie de pousser des bois.
Non, je suis désolé, vraiment, je peux pas vous laisser rentrer. Enfin, de mon vivant, j'entends.
Les Tuche ne s'arrêtent pas là. Et partent ensuite à la conquête du rêve américain, comme le rappelle Jean-Pierre Pernaut sur le plateau du 13h de TF1 en 2016.
Le deuxième volet des aventures de la famille Tuche, vous la connaissez, le premier volet avait eu un gros succès il y a 5 ans. Voilà le deuxième, en Amérique cette fois. Reportage d'Evangeline Barbaroux et Olivier Stambard.
À bord Tuche !
Plongée immédiate dans l'ambiance Tuche. 5 ans après le premier volet, toute l'équipe s'est reformée et les fans sont au rendez-vous. Les parents Tuche, Cathy et Jeff, Mamie Suze et les trois enfants font désormais partie des classiques.
Qu'est-ce qu'il y a après les États-Unis ? L'Élysée, où les Tuche s'installent après la victoire du père à la présidentielle. Rien que ça.
qu'il s'en est passé des choses en 2 ans. Après notre tour des Amériques, on a repris nos bonnes habitudes. Quant à mon Jeff, il est devenu maire.
J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle.
Bah, c'est une bonne décision, mon Jeff, mais tu tonds la pelouse d'abord.
Bon, t'es Jeff Tuche.
Et pourquoi?
Parce que c'est mon nom.
Jeff Tuche, président.
7% des voix. Pareil que c'est beaucoup.
Putain, c'est énorme, ça veut dire que sur 7 Français, il y en a 100 qui votent pour toi.
Jeff Tuche, quel est votre programme?
J'hésite entre Koh-Lanta et The Voice.
On aura vraiment tout vu, Bichon. Hein.
Jeff Tuche, le candidat que personne n'attendait.
Élu avec 57% des voix.
Ouais. Succès en salle assuré, rapporte l'édition Nord-Pas-de-Calais du 19-20 de France 3.
Après le loto et les États-Unis, les Tuches atterrissent à l'Élysée et imposent leur style très particulier à la présidence de la République.
Vous pourrez un peu débarrasser vos trucs là, parce que moi, j'ai pas 8 bras, hein. Je suis pas un poulpe.
Juste après l'avant-première, les 1500 spectateurs rencontrent les acteurs dans des salles pleines à craquer. Le deuxième volet avait fait plus de 4 millions d'entrées. Pour le public nombreux présent hier, le succès semble assuré.
J'ai jamais vu les Tuches en fait, donc c'est une première pour moi. Et franchement, c'était excellent.
Franchement, on a kiffé, des frites, c'est notre famille, les Tuches. Donc on adore.
Très bien, mais j'ai trouvé les autres meilleurs.
C'est complètement différent et puis ça change du concept et ça reste toujours très drôle et une bonne soirée en famille.
Le quatrième chapitre de la saga, un conte de Noël revisité et un bras de fer. Jeff face à un géant de la distribution du net. C'est encore un carton malgré le contexte Covid et la crise sanitaire.
Mais franchement, on en a besoin de films comme ça.
Exactement, on en a vraiment.
Ça rejoint le succès des Bodins, ça rejoint le succès de tous les films populaires en ce moment.
Oui, c'est ce qu'on dit, c'est que ce sont les comédies populaires qui tirent leur épingle du jeu, moins les films d'auteur. Alors évidemment,
en fait, on a surtout besoin de frites.
Ah, on a besoin. Mais j'osais pas le dire, mais j'aime bien le dire quand même.
Des frites.
On a besoin de ça. Mais c'est aussi, je vais vous dire pourquoi ça marche aussi, c'est parce que les Tuches 4, c'est aussi un conte de Noël et c'est un film axé sur la famille. Cette fois, ils partent pas à Monaco, ils partent pas aux États-Unis, ils sont pas à l'Élysée. Non, on reste à Bouzol en famille. Et finalement, est-ce que ça fait pas écho à ce qu'on vit en ce moment, dans cette période un peu tristoune?
On est tous restés à Bouzol.
Voilà, on restait à Bouzol, on a besoin de se recentrer sur l'essentiel. Et chez les Tuches, c'est la famille.
L'équipe du film est accueillie par le public comme des rockstars. Et créer l'événement, les acteurs principaux, dont Jean-Paul Rouve, alias Jeff Tuche, et Isabelle Nanty, Cathy Tuche à l'écran, débarque dans le vieux break familial de la famille Tuche. Écoutez ce reportage de BFM TV.
Ils savent soigner leur arrivée.
Oh, ça va ?
Eux, ce sont les Tuche, rois du box-office. Ils totalisent plus de 11 millions d'entrées en 3 films. Le public connaît leur réplique par cœur.
Les frites.
On est les Tuches, c'est trop marrant.
C'était super, ça fait du bien de retrouver la famille Tuche.
On a toujours adoré et là, on n'est vraiment pas déçus.
Incroyable, j'irai le voir une deuxième fois.
Comment expliquer le succès des Tuches? Qu'est-ce qui touche autant le public chez cette drôle de famille? Une forme de liberté qui fait sans doute l'un des ingrédients clés de la saga, répond Jean-Paul Rouve à Léa Salamé sur France Inter.
Compliqué d'analyser le succès, hein, vous savez. Déjà, on essaye que ça fasse rire, quand même, c'est la base, soit une comédie. Et puis, il faut écouter les... Moi, j'écoute, on écoute, là, les gens nous disent que ça leur fait du bien, qui les trouvent tellement libres, les Tuches, ils font tellement ce qu'ils veulent, on aimerait tellement être comme eux. Moi, je sais que quand on écrit, moi, je pense à ça, je les envie, moi, j'aimerais bien être un Tuche, pouvoir dire ce que je veux, comme je veux, ne pas avoir peur ou du jugement
regard.
De l'autre, du regard, cette liberté.
Ils s'en foutent du ridicule, ils s'en foutent de ce qu'on va penser
libres.
D'eux.
Ils sont punk un peu.
Et puis, peut-être aussi de la bienveillance, ajoute Jean-Paul Rouve, balayant une forme de mépris de classe qui viserait le film et ses personnages.
Et puis, ils sont vrais, ils sont authentiques.
Ils sont bienveillants aussi.
Ouais,
c'est important aujourd'hui,
ce que j'allais
ça.
Vous dire, vous dites d'ailleurs, ce sont pas des beaufs bêtes et méchants.
Non.
Ils sont...
Ça veut rien dire, beauf, ça m'ennuie, cette phrase.
Pourquoi ça veut rien dire?
Mais ça existe... En plus, beauf, vous savez quoi? Je trouve ça fou, parce que je trouve que c'est presque du racisme social. Parce que quand on dit quelqu'un est beauf, ça veut dire qu'on se place dans une situation supérieure, en disant « je te juge, tu es un beauf, donc tu es moins bien que moi ». C'est du racisme, ça.
Car les critiques n'ont pas toujours été tendres avec les Tuches. avant que le vent tourne.
Le Parisien qui fait un mea culpa.
Moi, ça, je trouve ça génial.
Alors, on va le dire.
Alors qu'on parle que d'un film, il faut un mea culpa. Mais c'est super touchant. Hein.
Ah, bah oui. Ah, ouais. Signé Emmanuel Marol. Ouais. Nous avons longtemps détesté les tuches et de citer les critiques du Parisien pour le premier film. Difficile de faire plus poisseux que cet humour lourdingue. Accablant pour le deuxième. De pire en pire pour le troisième. Et là, changement de ton. Nous avons appris à aimer les tuches. Personnages attachants, plus profonds qu'on imaginait, jamais méchants. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis.
C'est classe, hein.
Ah ben là, vous aviez le succès populaire, là, vous aviez la reconnaissance critique, si j'ose dire.
Ouais.
Mais côté public, les tuches font l'unanimité.
C'est pas une famille comme tout le monde, donc ils sont hors normes et c'est assez marrant.
Non, ils sont simplets, ils sont attachants.
Ils sont spéciaux, très spéciaux.
C'est tellement gros qu'on est obligé de rire.
C'est bien, hein. Faut plus qu'à voir le reste.
Au-delà de la comédie, voire de la caricature parfois, les films offrent aussi un autre niveau de lecture, avec une dimension presque politique, comme l'évoquent Léa Salamé et Jean-Paul Rouve, toujours sur France Inter.
C'est un film politique aussi. Olivier Barou le dit que les tuches sont des résistants.
Alors je ne sais pas s'ils résistent. En tout cas, ce qu'on aime quand on écrit... Ce qu'on aime, c'est toujours placer les tuches, même si c'est des personnages hauts en couleur, on va dire presque des personnages de bande dessinée, on aime bien les placer dans une réalité sociale. On aime bien parler de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et sans faire de leçons, sans faire prosélytisme, évidemment. Mais de se dire, bah voilà, la France d'aujourd'hui, c'est quoi? Bah en ce moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Amazon, de tous les GAFA, de tout ça. Donc on aime bien mettre ça. Mais ça vient aussi, vous savez de quoi? Ça vient
de
aussi, parce qu'on est, on est cinq à écrire. Et il y en a trois qui sont d'anciens auteurs, qui étaient les auteurs des Guignols. Donc ils sont très sensibles à ça, à l'actualité, le monde dans lequel on vit.
Mais la saga Tuche, c'est peut-être encore les Tuches qui en parlent le mieux. Comme dans ce reportage du 13h de TF1 avec Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve lors de la sortie du deuxième film.
Ils s'intègrent partout. En fait, c'est parce qu'ils ne s'intègrent pas, c'est pour ça qu'ils s'intègrent. Parce qu'ils viennent avec leur monde. Eux, ils viennent avec leur monde.
Ils sont
à
toujours
fois.
Quand même un peu regardés comme des...
Ils sont regardés.
Comme des bêtes curieuses.
Ils s'en foutent. Et ils ne s'en rendent pas compte.
Hugues. Quiproquo en cascade, situation loufoque. Les tuches vont vivre le rêve américain, quitte à se perdre.
Je crois qu'on n'a jamais été aussi pauvre.
Mais ce sera pour mieux se retrouver.
Un tuche, ça se renie pas. Un tuche, ça se rappelle d'où que ça vient.
Bonjour Jérôme Lachasse.
Bonjour Céline.
Vous êtes journaliste au service culture de BFMTV.com. L'affiche et la date de sortie du cinquième volet des Tuches ont été dévoilées. Il va falloir attendre encore un peu, mais ce sera pour février 2025. Le tournage a même débuté au mois de mars. Le film s'appellera God Save the Tuche et se frottera à la royauté britannique. Sur l'affiche, des frites, bien sûr, qui trempent dans une tasse de thé. Un film très attendu. Les quatre précédents ont réuni en salle 11 700 000 spectateurs. C'est considérable. Comment expliquer le succès de la saga, Jérôme Lachasse?
C'est avant tout un succès en fait inattendu. Le premier volet, il a déboulé au cinéma en juillet 2011. Quand le film sort, c'est un succès assez modeste. Ça fait 1 million d'entrées, ce qui est bien pour une comédie estivale, mais ça casse pas non plus la baraque. Il se trouve que quelques années plus tard, lors d'une diffusion sur TF1, le film fait 7-8 millions de téléspectateurs.
Wow.
C'est extrêmement rare que les films fassent autant. En tout cas, les films qui n'ont pas eu autant de succès en salle. Et c'est là où, en fait, l'équipe du film, le réalisateur Olivier Barou, le producteur Richard Grandpierre et aussi Pathé, ils se disent, on tient un truc, il faut peut-être exploiter le filon. Et donc, ils vont produire dans la foulée Les Tuches 2 qui se passe aux États-Unis. Et en fait, quand Les Tuches 2 sort en salle, ça va confirmer en fait le succès à la télé. C'est-à-dire que le film va faire 4,6 millions d'entrées. Ce qui est énorme, sachant que le premier qui était sorti 5 ans avant avait fait que 1 million. Et donc là, le succès, il n'est pas uniquement lié à la diffusion télé. C'est-à-dire qu'il y a réellement le public français qui s'est attaché au personnage. Moi, je me souviens, j'étais là le jour de la sortie, j'étais en salle. Je l'ai vu dans un cinéma à Paris, une toute petite salle. Pourtant, c'était dans un grand cinéma. C'est dire à quel point le film n'était pas non plus... Il y avait quand même une hésitation, est-ce que ça va marcher ou pas. Mais en tout cas, la salle était complète, le film cartonnait déjà. Et je me souviens, la lumière s'est rallumée. Le couple derrière moi, qui doit avoir une cinquantaine d'années, a dit ces mots que j'ai jamais oubliés. Il a dit, le film n'était pas terrible, Mais qu'est-ce que ça faisait du bien de les retrouver. Et en fait, une partie du succès va tenir de là, en fait. On adore retrouver des gens qui, en fait, font déjà partie de la famille, du public français. Et 2 ans après, quand Les Tuches 3 va sortir, il va faire encore mieux, il va faire quasiment 6 millions d'entrées. Et il va récolter le César du public l'année d'après. Mais il y a autre chose, en fait, c'est que Les Tuches, en fait, ça parle vraiment de la France. Ça fait vraiment écho, en fait, à ce sentiment que les élites, les gouvernants, écoutent pas le peuple. Le troisième film des Tuches, c'est pour ça que c'est aussi le plus gros succès de la saga, c'est le sujet du film. Et ça, c'est un clin d'œil historique assez rigolo, c'est qu'il y a une séquence où ils sont à l'Elysée, il y a la grève, et en fait, on voit des grévistes avec des gilets jaunes. Et le film sort quelques temps avant le mouvement des gilets jaunes, ce qui fait qu'il a anticipé le mouvement des gilets jaunes. Enfin, il y a un écho, en tout cas. On peut trouver ça amusant, et il y a eu beaucoup d'ailleurs de papiers à l'époque. Je me souviens, Le Monde avait fait un article, Le Point, enfin, il y avait eu des journaux assez sérieux qui s'étaient penchés du coup sur le phénomène. Et il y a un autre aspect qui est très important et qui explique aussi le succès des films. Il n'y a pas que des gags potaches, mais il y a réellement en fait une tendresse et un amour qui se ressent entre les personnages, quoi. On peut penser que c'est des films qui sont très caricaturaux de prime abord, et en fait ils sont beaucoup plus émouvants qu'on peut le croire.
Est-ce qu'il y a une marque de fabrique de la saga Tuche?
Alors oui, il y a des répliques qui sont devenues cultes. Des frites, des frites, des frites. C'est quelque chose qui est souvent repris, il y a des gifs. Je me souviens même que pour la promo du 3, ils avaient fait une boîte à... Il y a une boîte, en fait, à son, en fait. On appuie sur des boutons et ça fait des répliques des films. Et donc, il y a Jean-Paul Rouve qui dit « C'est Tuche avec un T comme t'es là ou t'es pas là », qui est une réplique du premier film. Et donc, il y a des répliques, en fait, comme ça, assez cultes, qui sont réutilisées. Je ne sais pas si le truc est dans le commerce, mais en tout cas, il y a cette boîte qui existe. Ça a fait la légende aussi des Tuches.
Vous en parliez tout à l'heure, l'univers des Tuches est assez particulier, voire stéréotypé, avec des personnages parfois proches de la caricature. Le père, Jeff, chômeur invétéré. La mère, en tablier, qui ne jure que par les frites, vous en parliez. La fille, une miss, relativement décervelée. C'est pas vraiment des héros.
Il y a une dimension évidemment très caricaturale dans Les Tuches, mais qui est assumée, parce qu'elle s'inscrit en fait dans la lignée de la comédie italienne des années 60-70, de films comme Afro Salé Méchant, qui n'hésite pas à être souvent avec des personnages très méchants, avec le trait forcé, mais pour justement décrire des situations très réelles de la société. Et pour parler des dysfonctionnements de classe et de ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les politiques n'écoutent pas le peuple et les classes populaires. Et donc, le trait est forcé pour ça. Mais si le film Les Tuches peut paraître caricatural, il s'inspire aussi de la réalité. Il faut savoir qu'une des inspirations des Tuches, et ça c'est les scénaristes qui le disent, c'est que c'est Striptease. Et Striptease, on connaît l'émission Striptease l'émission belge, qui montre aussi des réalités qui sont souvent, qui ont l'air extraordinaires, mais qui sont la réalité. Et notamment, il y a un épisode qui était sorti en 92, qui était Les Aventures de la famille de Baker. Et en fait, on voyait une famille nombreuse belge qui étaient à table, et je crois qu'ils mangeaient même des frites ou de la purée de pommes de terre. Et ils étaient genre 5 ou 6 dans un tout petit appartement, et ils s'engueulaient, il y avait une énergie assez folle dans la famille. Et c'est Striptease, quand on regarde Striptease, on se dit toujours « Ah, ils en font des caisses », mais en fait, c'est la réalité. Et en fait, Les Tuches viennent de là aussi. Donc en fait, il y a aussi ces deux inspirations qui donnent, après avoir quelque chose qui a l'air caricatural, mais en fait, qui n'est pas tant que ça. En tout cas, une des marques de fabrique de la série, c'est vraiment aussi ça, c'est vraiment aussi cette comédie à dimension sociale. En fait, Les Tuches est devenu un rendez-vous. À partir du succès du deuxième film, ils sont tous sortis en février, pile au moment des vacances d'hiver. Et c'est un moment crucial pour la comédie française. Si on regarde, en fait, dans les 20 dernières années, les films de Philippe Lachaud, les films de Michael Youn, beaucoup de ces films-là sont sortis à cette période-là. C'est une période, en fait, où il n'y a pas de blockbuster américain. C'est une période où les enfants sont en vacances, où il y a peu de gros films très importants. Il y a vraiment la place pour que ces films puissent exister. Et Les Ch'tis est sorti aussi à cette période-là. Et donc, c'est vraiment une période qui est favorable à ces films-là. Donc, en fait, c'est devenu un peu un rendez-vous, quoi, pour la famille.
Et pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, les personnages sont attachants, il y a beaucoup d'amour et de tendresse dans cette famille. Est-ce que le succès de la saga s'explique aussi parce que ce sont des films qui font du bien?
Oui, c'est des films feel-good. Ce qui est génial avec Les Tuches 3, par exemple, c'est que ça se termine avec une blague sur « Ah, ils vont aller au Vatican, il va devenir le pape ». Ça se finit avec une punchline qui est rigolote. Tu remportes ça avec toi, tu dis « Ah, l'histoire était marrante et en plus, t'as la punchline rigolote ». Donc ça finit souvent avec une espèce de petite fête. On croit toujours qu'ils vont perdre leur argent, puis ils le retrouvent. C'est comme une BD, tu sais, c'est comme Astérix.
Ça finit bien.
Ça finit bien avec un banquet.
Qu'est-ce qui différencie Les Tuches d'autres sagas comme Les Gendarmes, Les Bronzés, Astérix ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?
Les Tuches, en fait, ils ont réellement, même si bon, on dit qu'il y a un conte de Noël dans lequel il y a le Père Noël qui apparaît et il y a un épisode où il devient président, mais malgré ces éléments qui sont un peu extraordinaires, ils prennent soin de raconter en fait quelque chose qui parle aux Français. Il faut à tout prix que ce soit à chaque fois relié avec la réalité des gens. Et c'était d'ailleurs un reproche qui avait été fait pour Les Bronzés 3, c'est-à-dire que autant dans les deux premiers, ils étaient très proches du spectateur, mais après dans le 3, ils sont devenus tellement riches et tellement odieux qu'en fait, ils sont déconnectés du réel et du public. Et une des forces des Tuches, c'est que même quand les mecs ont gagné des millions au loto, même quand ils sont devenus des nouveaux riches aux États-Unis, même quand ils sont des nouveaux riches à Monaco, même quand ils sont présidents de la République, ils restent hyper proches des Français. Et donc c'est aussi pour ça que ça parle autant, quoi.
Pour en revenir au cinquième film qui sortira l'année prochaine, à quoi s'attendre dans ce nouveau volet de la famille Tuche qui va cette fois franchir la Manche ?
Il sera à la fois très proche et très différent. Très différent parce que, en fait, pour la première fois, c'est pas Olivier Barou qui va réaliser le film. Il avait réalisé les quatre premiers et puis il y a eu Scission avec Jean-Paul Rouve qui endosse le rôle de réalisateur cette fois-ci. Un film comique, ça tient aussi parce qu'il y a plusieurs personnes impliquées. Et là, il y avait une équipe de 4 personnes qui était au cœur du truc. Et sans elle, est-ce que ce sera la même chose ?
Réponse en février 2025.
Ouais.
Et dernière question, vous qui êtes un spécialiste des comédies françaises, on peut d'ailleurs vous retrouver dans le podcast Comedy Club de BFM TV, à tout hasard, est-ce que vous auriez un petit scoop pour nous sur ce cinquième volet de la famille Tuche ?
Ils ont choisi un acteur pour prendre Charles. C'est pas à moi de dire le nom, parce que ça s'est ruiné l'effet de surprise de la production. Mais disons que ça va surprendre les gens, enfin en tout cas des cinéphiles, puisque l'acteur choisi est un acteur qui a pas mal circulé dans les comédies françaises des années 70-80.
Donc résultat l'année prochaine pour God Save the Tuche. Merci Jérôme Lachasse d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Merci.
Merci à Yves Pulici pour la réalisation de ce podcast. Et merci à vous d'avoir écouté le titre à la une. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro.